Je vais présenter tout le monde. Juste, c'était pour dire que c'était notre troisième rentrée pour une nouvelle saison sur l'antenne de Principe Actif. Donc Amnesty International, le groupe d'Evreux, présent tous les derniers mardis du mois de 19h à 20h en direct et après tout le temps en podcast sur le site de Principe Actif. Donc ce soir, pour animer l'émission avec moi, Sabine.
Bonsoir.
Françoise.
Bonsoir.
Et Ronan.
Bonsoir.
Ronan qui en plus a la lourde tâche de s'occuper de la technique. Donc un petit mot, une petite remarque pour commencer. On se dit que parmi les auditeurs de Principe Actif et les nouveaux auditeurs, on ne doute pas qu'il y a des gens que l'audience augmente au fil du temps. Il y a peut-être parmi vous des gens qui se posent la question, ça veut dire quoi Amnesty International ? Donc en deux mots, très rapidement, Amnesty International est un mouvement international, comme son nom l'indique, qui lutte depuis plus de 50 ans pour l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui défend donc tous les droits énoncés dans cette déclaration. La particularité d'Amnesty est de joindre la théorie à la pratique. La théorie en traitant de grands sujets, de grands thèmes comme la peine de mort, la torture, les études sur les pays, le refus de la misère et les droits sociaux et culturels, mais aussi l'action pratique en luttant depuis 50 ans pour la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. C'est un côté d'Amnesty qui est très connu, ça fait 50 ans qu'on le fait et ça fait 50 ans qu'on fait libérer des gens. On en est maintenant à quelques milliers de personnes libérées et de ça, on n'en est pas peu fiers. Donc voilà, Amnesty c'est ça. C'est beaucoup de choses et c'est tout ce qu'on va vous raconter pendant une heure. Pour conclure sur ce qu'est Amnesty International, je vais vous lire simplement quelques phrases qui sont extraites du rapport moral qui a été fait par Geneviève Garrigos, qui est la présidente d'Amnesty France, lors du dernier congrès de la section française au mois de juin.
J'y étais.
Françoise y était, tout à fait. Donc elle pourra confirmer que ses propos sont exacts. Donc Geneviève disait... Je voudrais revenir sur un ouvrage sorti en octobre 2010 qui a créé un raz-de-marée, Indignez-vous, de Stéphane Hessel, ce grand monsieur qui a participé à l'écriture de la Déclaration universelle des droits humains en 1948, à travers ce pamphlet qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, qui a été traduit en 40 langues et vendu dans 100 pays, nous a interpellés, nous citoyens, pour que nous gardions notre capacité à nous indigner. Ce livre a aussi influencé le mouvement des indignés, ceux qui sont partis de Madrid, mais aussi ceux de Wall Street et d'ailleurs. Tout le monde s'est félicité de cet ouvrage, même s'il a été très controversé. Ce qu'on lui a reproché, c'est que l'indignation est un sentiment émotionnel, mais que l'on ne construit pas derrière. Je trouve que c'est très bien qu'il appelle les gens à s'indigner, parce que derrière, pour transformer ce qui pourrait être que colère et indignation, Amnesty International est là pour porter justement tous ceux qui s'indignent de ce qui se passe à travers le monde, pour que cette énergie serve à transformer le monde. Voilà, c'est tout à fait la définition d'Amnesty International. On est là pour transformer le monde. Donc, et pour conclure cette introduction et cette présentation, un petit bonjour à tous les... J'étais en réunion nationale ce week-end à Paris, enfin ça peu importe, à tous les copains d'Amnesty qui étaient là et qui nous ont dit qu'ils nous écouteraient sur Internet. Donc il y en a certains qui sont à l'autre bout du fil, devant leur PC. Et ben, on les salue effectivement.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Et puis également, un petit mot aussi pour dire que notre initiative d'émission de radio au sein du groupe d'Amnesty Evreux, d'émission de radio sur Principe Actif, est en train de faire beaucoup d'écho au sein d'Amnesty. On en a parlé au dernier congrès, Françoise pourra aussi confirmer.
Oui, oui, oui.
Et on a de plus en plus de remarques de différents groupes disant « c'est intéressant comme initiative, comment vous faites, comment vous gérez, comment on peut faire ». Donc il y a tout à penser que nos émissions fassent des petits dans d'autres radios associatives locales à travers la France. Et si c'était le cas, et à mon avis ce sera le cas, ce serait pour nous une excellente nouvelle. On ne peut qu'encourager tous les militants d'Amnesty et tous les responsables à se lancer dans l'aventure. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce soir, on va parler de différentes choses. Alors, je vous fais un petit sommaire, une petite mise en bouche, comme on fait toujours. On va parler de Troy Davis. Je ne vous en dis pas plus. Beaucoup d'entre vous savent de qui il s'agit. On va parler de la campagne abolition de la peine de mort. On va parler de l'affaire des Pussy Riot sur laquelle Amnesty a milité cet été et qui n'est pas finie. On va parler de la crise dans les pays du Proche-Orient. Etc. On va parler du traité sur les armes, on va parler de tellement de choses que je crois qu'on n'aura pas le temps de tout dire si j'arrête pas de parler. Donc Ronan, c'est à toi, un petit mot pour Troy Davis.
Déjà, on dédie l'émission d'aujourd'hui pour la mémoire de Troy Davis. Parce que Troy Davis, je ne sais pas si les gens ils se rappellent, donc c'était Troy Davis, on a l'année dernière au Festival Rock, même depuis plusieurs années, donc on s'est battu pour lui.
Pour éviter son exécution.
Tout à fait. Dernière,
et malheureusement, il a été exécuté.
Alors, je vais vous lire, si vous voulez, la lettre. Donc, c'est sorti dans le Journal du Monde. C'est par Geneviève Garrigos, qui est la présidente d'Amnesty France. Le 21 septembre 2011, Troy Davis est exécuté par injection létale au pénitencier de Jackson, en Géorgie. Condamné à mort pour le meurtre d'un policier, Mark Allen McFell, en 1991. Ce jeune Afro-Américain n'avait que 22 ans lorsqu'il pénètre dans le couloir de la mort. Il y restera 20 ans. 20 ans à clamer son innocence. Sa famille, les avocats, les militants abolitionnistes ont réussi à travers le monde à mobiliser hommes politiques, autorités religieuses, magistrats qui ont reconnu dans ce dossier l'iniquité d'un système judiciaire qui permet de condamner à mort un homme à mort sans preuve matérielle à la suite d'une enquête bâclée, assistée d'une défense défaillante. Une justice qui exécute un homme malgré les doutes réels et fondés sur sa culpabilité. L'exécution de Troy Davis a été suspendue à 3 reprises en 4 ans. Le dernier sursis a pris fin lorsque le juge fédéral William Moore a décidé que la preuve de l'innocence n'avait pas été faite, même si l'accusation n'était pas toute épreuve. Le comité des grâces et le gouverneur n'ont pas commué la peine, donnant ainsi le feu vert à un acte barbare, un acte de vengeance qui n'avait rien à voir avec la justice et qui, une fois de plus, a été bafoué. Nombreux sont ceux qui dénoncent cette justice à plusieurs vitesses, influencée par l'origine ethnique, le niveau social et la situation géographique du meurtrier présumé. L'origine de la victime et la constitution du jury. Les Afro-Américains représentent 42% des personnes enfermées dans les couloirs de la mort, alors qu'ils ne sont que 12% dans la population des États-Unis. De même, 80% des sentences de mort sont prononcées à l'égard des meurtriers d'États-Unis blancs. Mais l'assassinat programmé de Troy n'a rien entamé la marche inéluctable vers l'abolition de la peine de mort, bien au contraire. Depuis, le Connecticut est devenu le 10e État à abolir la peine de mort. Ces 5 dernières années, Le New Jersey, New York, le Nouveau-Mexique et l'Illinois l'ont eux aussi aboli. Et en 2011, John Keith Chabert, gouverneur de l'Oregon, a annoncé qu'il n'autoriserait plus de nouvelles exécutions jusqu'à la fin de son mandat. En novembre, les habitants de Californie devront se prononcer par voie de référendum sur l'abolition dans cet État dont les couloirs de la mort sont les plus peuplés des États-Unis. Pour les Californiens, un des arguments les plus populaires en faveur de l'abolition est le coût. La peine capitale coûte jusqu'à 20 fois plus cher que la condamnation à vie dans cet État, qui a déjà conduit le Nouveau-Mexique à abolir en 2009. Les contribuables californiens, désireux de voir les dizaines de millions de dollars en jeu utilisés pour renforcer la prévention et indemniser les victimes plutôt que pour exécuter les condamnés, vont-ils avoir gain de cause? Le nombre d'exécutions diminue. L'année dernière, 13 États sur 50 ont appliqué 43 sentences, 46 en 2010. Le plus bas niveau depuis le rétablissement de la peine de mort en 1977. Le nombre de peines prononcées est lui aussi en baisse. Pour la première fois en 35 ans, il a été inférieur à 100 et la condamnation à mort des malades mentaux est de plus en plus remise en cause. Les changements dans la méthode d'exécution par injection létale, un seul produit injecté au lieu de 3, et la pénurie des drogues utilisées pour l'injection suite à un arrêt de fabrication du thiopental ou les durcissements des exportations. Le durcissement d'exportation de drogue létale par les firmes européennes entraînant des sursis à exécution ou des dates d'exécution repoussées. Lundbeck, une société danoise, vient de céder ses droits de fabrication du pentobarbital à une société américaine située en Illinois, mais en lui faisant signer un accord de non-fourniture à des fins létales.
Je t'interromps, pardon, excuse-moi, oui. Mais même les noms des produits pour exécuter les gens, c'est absolument imprononçable. La peine de mort, c'est vraiment imprononçable sur tous les plans.
Injustice, discrimination, coût de l'enfermement dans les couloirs de la mort, inhumanité de la peine, autant de raisons qui sèment de doutes et provoquent le rejet d'une partie grandissante de la population. Les 140 détenus innocentés, le dernier en date, Joe D'Ambrosio, était détenu dans l'Ohio suite à des tests d'ADN ou des révisions du procès entachées d'irrégularités, permettent aux Américains de prendre conscience que leur système de justice peut assassiner des innocents. Et ils sont toujours 61% à être favorables à la peine de mort, contre 80% en 1994. 35% y sont opposés contre 16% en 1994. Une remise en cause qui progresse même au Texas, l'État qui à lui seul a exécuté 30% des mises à mort perpétrées dans le pays en 2011. En 1988, Robert Cushing était assassiné. Depuis, son fils Rennie a fondé Murder Victim, Family for Human Rights, excusez-moi pour mon anglais, une association qui crée des passerelles entre les abolitionnistes et défenseurs des droits des victimes. Il a notamment accompagné Bob Kurley, ancien partisan de la peine capitale, dont le fils de 10 ans a été violé et tué, qui, après avoir fait campagne pour la réintroduction de la peine de mort dans l'État du Massachusetts, a changé de position. Interrogé sur la mort de son père, Rainey déclarait « Si nous laissons les meurtriers nous transformer en assassins, alors c'est le triomphe du mal et cela ne fait qu'aggraver la situation pour chacun. » Un message pour les parlementaires et les législateurs qui continuent de croire que seule la peine de mort peut prendre justice, peut rendre justice aux victimes. Patrick Quinn, gouverneur de l'Illinois, a mis en cause la légitimité des gouvernements qui permettaient d'exécuter des innocents, alors que même qu'il est impossible de concevoir un système qui soit cohérent, qui ne fasse aucune discrimination fondée sur la race, l'origine géographique ou la situation économique et qui ne se trompe jamais. Troy Davis, jeune afro-américain, pauvre d'un État du Sud, accusé du meurtre d'un policier blanc, avait tout, sauf les preuves matérielles pour être condamné. En l'exécutant, la Géorgie a fait de lui un symbole pour les abolitionnistes qui, chaque jour, continuent de faire reculer la peine de mort aux États-Unis.
Eh bien, moi, je vais vous dire que le 10 octobre, c'est donc la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. Le 30 novembre, Amnesty propose « Ville pour la vie, ville contre la peine de mort ». Ce mouvement est organisé par la communauté de Sant'Egidio, organisation installée à Rome, qui célèbre par là la première abolition en Toscane en 1786. Depuis 10 ans, il y a un fort développement quand même du mouvement abolitionniste. Il y a une croissance de la coalition mondiale contre la peine de mort en janvier 2012 et c'est une entité totalement indépendante à laquelle appartient Amnesty. L'Assemblée nationale des Nations Unies, dans cette assemblée, on note un accroissement constant des votes en faveur de résolutions contre la peine de mort. Donc Amnesty, en lien avec la coalition mondiale, attire l'attention d'une part sur le maintien du recours à ce châtiment, d'autre part sur les risques de l'élargissement des applications de la peine de mort, exemple en Ouganda, qui permet de requérir à la peine de mort pour homosexualité avec circonstances aggravantes. Au cours de cette journée mondiale, donc, des actions éducatives seront menées auprès du public et surtout auprès des jeunes générations. Et en décembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies votera une 4e résolution en faveur d'un moratoire sur l'application de la peine de mort. Nous enverrons des appels auprès de 4 États abolitionnistes, Cuba, Ghana, Myanmar et... je ne sais plus, et la Tunisie, pardon. Voilà, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein. Et au Bénin, par exemple, le 5 juillet 2012, le Bénin a adhéré au 2e protocole facultatif se rapportant au paquet international relatif aux droits civils et politiques vivant à abolir la peine de mort. C'est donc le 75e pays abolitionniste. Au Soudan, une jeune femme de 20 ans a été libérée le 3 juillet. Elle avait été condamnée à mort par lapidation pour adultère. Ce jugement a été prononcé le 13 mai et le 3 juillet, elle a donc été libérée. À Singapour, Amnesty salue le gouvernement pour abolir la peine de mort obligatoire dans certaines affaires de stupéfiants et d'homicides. Voilà. Bon, il y a d'autres cas, évidemment, où les problèmes ne sont pas résolus. Nous appelons... par une action urgente en Pennsylvanie, Terence Williams, 46 ans, doit être exécuté pour meurtre commis à 18 ans. Et un appel à la clémence est lancé et pour ça, Amnesty a lancé une action urgente. Il a aussi lancé une action urgente concernant l'Irak, où 11 personnes risquent la peine de mort. Et concernant l'Iran, il y a eu l'acquittement d'un pasteur, mais il y a 12 personnes qui ont avoué à la télé des assassinats et Amnesty est très inquiet et donc a lancé des actions urgentes à ce sujet. Mais enfin, voyez quand même que le mouvement abolitionniste est de plus en plus important dans le monde entier, heureusement.
Ça avance, oui, effectivement. Pour conclure sur ce que tu viens de dire, Françoise, il y a un chiffre qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'en 1977, il y avait moins de 40 pays qui avaient aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Et à l'heure actuelle, on en est à plus de 140. Donc on voit effectivement que le chemin n'est pas fini pour l'abolition totale, mais on est en bonne voie. Et puis dernière chose aussi, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la peine de mort, de par les erreurs judiciaires inévitables, et Troy Davis en est un exemple flagrant, la peine de mort revient à ce qu'un état de droit exécute des innocents. C'est absolument incompatible. Bien, on continue, je crois qu'on enchaîne sur une petite pause musicale. Après toutes ces considérations, c'est Ronan qui est en train de se perdre dans les boutons. Non, il ne se perd pas, il ne se perd pas, il ne se perd pas. Il maîtrise,
non, il cherche le CD.
Il maîtrise,
je cherche pas le CD, le CD.
Contrairement à moi, quand je suis à la technique, moi je me perds, c'est vrai, à chaque fois, lamentablement.
Bon, allez, la pause, c'est parti.
Ain't seen you in a long time. Is everything all fine? Doing your best? I'm glad to hear it. It's all progress. Yeah, that's the spirit. Look at you. You look great. It seems like you kept yourself in good shape. You stopped drinking, huh? Congratulations. You back at school too? That's fascinating. So what you doing nowadays? You living here again or just visiting for the holidays? Yeah, yeah. How's your family? How's your mommy and daddy? They living happily. So tell me all about L.A., huh? You don't live in L.A. Hold up, wait, wait, wait. Chicago. How's Chicago? What? No. Well, where you living then? Oh, my fault. Please forgive me. Bad memories. So how's the big city? You paying dues? You making moves? Yeah, always knew someday you'd break through. You forever been a go-getter. And I won't forget that. Bet that I'll remember. I never told you this, but I wish you the best success and all that other shit. But that's my cue, I got stuff to do. It was a special surprise to bump into you. Stay safe, you have yourself a great day. Wait, what was that? What'd you say? My phone number? Nah, I don't think so. I only gave it to a handful of close people. Let's not make this into an issue, but the truth is, I don't miss you. La 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 la. I will disappear. La 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 la. No far and no near. La 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 la. You are not my dear. I don't care where you go from here. La 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 la. I will disappear. La 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 la. No far and no tears next to your name here.
Bien de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc toujours le groupe Amnesty Évreux, Didier au micro tout de suite. Juste un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre, c'est un morceau qui s'appelle Your Name Here, qui est un morceau d'un groupe qui s'appelle Atmosphère. On vous l'a passé parce que l'an dernier, au festival 2011, leur chanteur Sean Daley, avec qui j'avais pu discuter et qui passait au festival, était venu discuter avec nous, avait signé la pétition pour Troy Davis, avait fait la pétition photo et avait parlé d'Amnesty et de Troy Davis sur scène. Donc on ne sait jamais si Sindalay nous écoutait, soit par les miracles d'Internet, eh bien on le salue et on ne l'oublie pas. Voilà, maintenant c'est Sabine qui va vous annoncer quelques nouvelles et je crois qu'elle ne va pas vous parler des États-Unis mais de la Russie.
Oui, alors une petite nouvelle sur les Pussy Riot. hein, qui ont pour 3 minutes de chanson, qui leur ont coûté cher puisqu'elles ont 2 ans de camp de concentration. Donc Amnesty International France a participé, Place Igor Stravinsky à Paris, le 17 août, à un rassemblement pour la libération immédiate de Nadejda Tolokonikova et de Maria Alekhina et Ekaterina Samustekvitch. Excusez-moi si j'écorche.
Ah, je suis content pour une fois, c'est pas moi qui l'entends.
Oui, mais le russe, c'est pas mon truc. Membre du groupe punk féministe russe, les Pussy Riot. Une manifestation similaire était organisée à Moscou et dans plusieurs autres villes à travers le monde à quelques heures du verdict. Pour avoir chanté dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou une prière intitulée « Sainte Vierge, chasse Poutine », les 3 musiciennes ont été reconnues coupables de hooliganisme fondé sur la haine religieuse et condamnées à 2 ans de camp. C'est un nouveau coup qui a été porté à la liberté d'expression en Russie. Je ne sais pas si le CD sortira, mais sinon je pense qu'on sera nombreux à l'acheter. Voilà. Sinon, un autre petit clin d'œil sur vol de nounours, ou plutôt l'envol de nounours. Début juillet, des militants suédois des droits de l'homme ont parachuté des centaines d'ours en peluche, porteurs de messages en faveur de la démocratie sur le sol de la Biélorussie. La réaction des autorités à l'annonce a été rapide. Renvoi des diplomates suédois. Anton Surapin, responsable d'un site d'information ayant diffusé des images de ce largage peu commun, est en détention préventive et 2 journalistes, Yulia Daraskevich et Irina Solsik, ont été condamnés à 290 euros d'amende pour s'être photographiés avec un de ces ours en peluche, selon Reporters sans frontières.
Il y a donc des pays où les ours en peluche sont interdits.
Ouais, ouais.
C'est formidable quand même. Ça me rappelle ce que tu viens de lire, ça me rappelle un bouquin qui a été co-édité l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, par Amnesty, et qui s'appelle Petits actes de résistance. T'en avais parlé
De rébellion.
Et je vous rappelle
que Sabine a dit ça.
C'est mes 2 voilà. Petits actes de rébellion ce soir, mais voilà. Donc qui ont mal fini.
Et ça, cette action-là, ça me fait penser tout à fait. À ce qui était parlé dans ce livre. C'est un livre qui est toujours disponible, n'hésitez pas à l'acheter.
Très beau livre. Mais vous en aurez quelques extraits dans les émissions à venir.
Bah c'est vrai, ça fait un moment que tu ne dois pas faire un petit
peu. Oui, c'est vrai, on commence à être en manque, effectivement, des petits actes de rébellion.
Bientôt, voilà. Patience.
Aide-nous à mettre des grains de sable dans la machine.
Patience. Oh, bah, les nounours, c'était pas mal. Hein. Je trouve que c'est un bel acte de rébellion. Et puis la chanson aussi.
Bon, quelques petites bonnes nouvelles.
Oui, Marc-Marie.
Oui, Ronan,
vas-y.
Alors, en Afghanistan, le journaliste de télévision afghan, Nasto Naderi, qui avait été placé en détention le 21 avril 2012 pour avoir critiqué des représentants du gouvernement, a été libéré sous caution le 8 mai 2012. Cuba. Le prisonnier d'opinion, José Daniel Ferro Garcia, maintenu en détention pendant 27 jours et inculpé de troubles de l'ordre public, a été libéré. Déjà en 2011, il avait été détenu pendant 8 ans pour avoir participé à une campagne pour un référendum national portant sur des réformes démocratiques à Cuba. Et José Daniel Ferrer Garcia a demandé que ses remerciements soient transmis aux membres du réseau Action Urgente d'Amnesty qui ont agi en sa faveur. Cuba toujours. André Carrion Alvarez, un détracteur du gouvernement cubain, avait été arrêté le 26 mars 2012 pour avoir crié « Liberté » et « Abat le communisme » juste avant une messe célébrée par le pape Benoît XVI.
Benoît XI, ça doit être un petit peu plus vieux, ouais, effectivement.
Je ne sais même pas s'il existait, mais bon.
Oh bah, je ne sais pas. On ne connaît pas tous les papes par cœur.
Par le pape Benoît XVI, il a été remis en liberté, c'est ça le plus important. Il a été remis en liberté le 13 avril 2012 en attendant son procès. Amnesty continue à suivre l'évolution de sa situation.
C'est tout ?
Ah, mais je peux en continuer.
À toi, Didier.
Oui, non, mais c'était une plaisanterie. Mais c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de bonnes nouvelles à dire et c'est important.
Ah, ben ça fait plaisir.
C'est important de voir effectivement les succès de nos actions. Même si on aimerait en avoir plus, il y en a déjà beaucoup.
Surtout quand on voit que les gens, en fin de compte, ils remercient.
Très souvent. Très, très souvent.
Le réseau d'action urgent, donc ça prouve que ça fonctionne.
Bien. Donc, oui, dans quelques mots sur une actualité brûlante dans tous les sens du terme. On en parle tous les jours aux informations, aux médias, presse, radio, télévision. La situation en Syrie. Inutile de vous rappeler tout ce qui s'y passe. Le nombre de milliers de civils qui sont maintenant victimes de ce qui est devenu effectivement une guerre civile, il faut l'appeler par son nom, entre un État qui ne veut rien savoir et rien céder et une opposition armée qui ne laisse rien passer non plus. Bon, pour Amnesty, bien sûr, qui est actif sur cette question-là depuis le début du conflit, on en est maintenant, j'ai relevé sur le site, à 61 communiqués de presse d'Amnesty en 2011-2012 sur la situation en Syrie. Un nouveau point d'information qui est tout récent, et c'est paru le 19 septembre dernier, un nouveau rapport d'une chercheuse pour Amnesty qui s'appelle Donatella Rovera, parce qu'Amnesty utilise effectivement des chercheurs pour aller enquêter dans les pays. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mieux quand on le sait. Et cette personne-là est revenue donc très récemment, a fait un rapport, elle est entrée en Syrie illégalement, ce qui n'est pas d'une façon de faire très classique à Amnesty, mais comme il est absolument impossible d'obtenir des visas pour le pays, elle y est entrée illégalement, elle a pu y rester un certain temps. Et dans son rapport, elle explique bien que les attaques incessantes et aveugles menées par l'armée syrienne ont pour principales victimes les civils et parmi eux, beaucoup d'enfants. La synthèse de ce rapport contient de nouveaux éléments montrant que depuis quelques semaines, les forces gouvernementales, acculées à la retraite par les combattants de l'opposition, soumettent les territoires perdus à des bombardements et à des tirs d'artillerie menés sans discrimination. Des attaques aveugles ont des conséquences dramatiques pour la population civile. Les forces gouvernementales bombardent et pilonnent désormais les villes et les villages en utilisant les armes conçues pour des champs de bataille et qui ne peuvent cibler des objectifs précis. Elles savent que les victimes de ces attaques aveugles sont presque toujours des civils. Ces armes ne devraient jamais être utilisées dans des zones d'habitation. Les médias ont peu parlé de la situation alarmante des civils dans la région de Syrie où Donatella a pu enquêter. Et l'attention du monde est toujours tournée en grande partie vers les combats à Alep et Damas. Mais les habitants des petits villages, bon, je vous passerai les noms, endurent au quotidien des horreurs tout aussi épouvantables. Ces attaques aveugles constituent des crimes de guerre. Les civils visés et les enfants sont en première ligne. Un certain nombre d'attaques ont eu lieu à proximité des hôpitaux, juste après l'admission d'un grand nombre de victimes, ce qui est quand même tout à fait sordide, ou près de files d'attente devant des boulangeries, ce qui peut faire soupçonner une volonté délibérée de viser de grands rassemblements de civils, une violation grave du droit international humanitaire et un crime de guerre. Amnesty International a recensé un nombre élevé d'enfants parmi les victimes, ce qui met en relief davantage encore la nature aveugle du nombre d'attaques de l'armée syrienne. 4 enfants ont ainsi été tués dans le bombardement de leur maison lors d'une attaque menée le 14 août contre le village de Chelak. Bien, je vous passe sur des pages et des pages de description de ce type-là. Malheureusement, on continue dans le sordide. Et le rapport conclut que ces frappes aveugles constituent des crimes de guerre et les responsables à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique doivent savoir qu'ils auront à rendre des comptes et ne pourront s'abriter derrière le prétexte de l'obéissance aux ordres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit hâter ce processus et déférer la situation en Syrie au procureur de la Cour pénale internationale afin que les auteurs présumés de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité au regard du droit international soient traduits en justice. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent mettre de côté leurs querelles politiques et se préoccuper en premier lieu des victimes. Après, donc Donatella conclut son rapport en précisant aussi que de l'autre côté, les groupes armés d'opposition syrienne, ceux qui appartiennent à l'armée syrienne libre, et les autres doivent indiquer clairement à toutes les personnes placées sous leur commandement que le fait que le gouvernement viole le droit international humanitaire, donc le gouvernement de l'autre côté, le gouvernement syrien, n'est pas une excuse pour commettre à leur tour des violations similaires et que de tels actes ne seront pas tolérés. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, on note effectivement qu'il y a un certain nombre de « dérapages » entre guillemets et d'atteintes aux droits fondamentaux sous forme de crimes. Donc, Amnesty en est rendu à 61 communiqués de presse, comme je le disais. Il y a un site dédié, je suis allé voir un site dédié qui est, bon, il faut être anglophone, il est entièrement en anglais, il n'a pas été traduit, mais qui est géré par Amnesty Londres et qui s'appelle « Eyes on Syria ». Donc, en un seul mot, « Eyes on Syria », vous tapez sur votre moteur de recherche et vous tombez sur le site qui est très bien fait, à condition effectivement de parler un minimum l'anglais.
Ça correspond aussi à la pétition photo qu'on fait sur la Syrie.
Tout à fait. Effectivement, c'est ce que j'ai vu aussi. Et ta remarque, Françoise, est tout à fait exacte. Bon, il y a donc à l'heure actuelle des demandes d'Amnesty International faites par rapport à l'ONU. Je vous les résume. Il y a plusieurs points. Je vous les résume très rapidement. La mission de supervision des Nations Unies a besoin d'une composante relative aux droits humains forte et dotée de ressources suffisantes. Amnesty recommande aussi que les observateurs de l'ONU chargés de veiller au respect des droits humains puissent protéger les victimes et les témoins et qu'ils bénéficient de la logistique et du soutien nécessaire, notamment d'une protection, afin de pouvoir se rendre partout en Syrie et de visiter tous les lieux de détention, ce qui est loin d'être le cas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit saisir le procureur de la Cour pénale internationale, comme je le disais, de la situation en Syrie. Un gel des avoirs à l'étranger du président Bachar el-Assad et de ses principaux collaborateurs doit être mis en place. Et un embargo sur les armes doit immédiatement être imposé afin de mettre un terme au transfert d'armes et d'équipements à destination du gouvernement syrien. Ça recoupe le traité sur les armes dont on va vous parler tout à l'heure. L'ensemble des États doit mettre un terme à tout transfert d'armes à destination de l'opposition en Syrie. Ça recoupe ce que je viens de dire. Et enfin, afin de garantir l'obligation de rendre des comptes sur les graves violations signalées, Amnesty International recommande que tous les États de la communauté internationale acceptent la responsabilité de partager, de sanctionner et d'enquêter sur les crimes contre l'humanité et autres crimes de droit international commis en Syrie et cherchent à exercer leurs compétences universelles pour ces crimes devant les tribunaux nationaux dans le cadre de procès équitables et sans recours à la peine de mort, etc. etc. Ça, ce sont les dernières recommandations d'Amnesty. Voilà. Avant que Sabine vous parle de l'Égypte, qui ne saurait tarder, juste un petit mot sur un autre pays du Maghreb aussi, en Tunisie, où effectivement, bon, vous savez qu'une révolution a eu lieu et qu'à l'heure actuelle, il y a une nouvelle constitution qui est en train d'être discutée. Il y a un communiqué d'Amnesty qui lui aussi date du 21, donc qui est très récent, et qui dit « La dépénalisation de la diffamation et la non-discrimination à l'égard des femmes est rejetée », ce que déplore Amnesty International. Alors, début du communiqué, le Conseil des droits de l'homme a adopté les conclusions de l'examen périodique universel sur la Tunisie. Malgré le soutien du pays à de nombreuses recommandations importantes, la Tunisie a rejeté des recommandations sur la dépénalisation de la diffamation, la non-discrimination à l'égard des femmes, la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'abolition de la peine de mort. Malgré tout, Amnesty International se félicite que la Tunisie ait apporté son soutien à de nombreuses recommandations importantes, notamment celles concernant le respect de la liberté d'expression, le renforcement des mécanismes de justice de transition et l'instauration de mesures destinées à combattre l'impunité. L'organisation engage les autorités tunisiennes à agir sans délai pour mettre en œuvre ces recommandations. Donc tout ça pour dire que Amnesty, effectivement, qui soutient le mouvement de libération des peuples au Maghreb, bien évidemment, reste vigilante sur toutes les suites qui sont données dans les différents gouvernements qui se mettent en place et surtout lorsqu'on constate ce qu'on appellera des dérapages extrêmement regrettables. Sabine, maintenant, on va enchaîner sur la situation, enfin un petit commentaire. Alors, sur l'Égypte.
On va partir en Égypte. Un petit article de la chronique de septembre. Femme, exhibitionnisme, main baladeuse, attouchement. Le harcèlement sexuel est longtemps resté tabou en Égypte. Phénomène social banalisé. Il est aussi utilisé comme une arme politique pour briser l'engagement des militantes. C'est une enquête qui a été faite, un harcèlement sexuel, calas, ça suffit. J'étais furieuse et le garçon pétrifié par ma colère, raconte Dena Edmad, 21 ans, lorsqu'elle se promenait à Madinatsar dans la banlieue nord-est du Caire, quand un coursier en mobilette lui a touché ses seins. Indignée, la jeune fille l'arrête. Attroupement se fait, certains tentent de la calmer. Ce garçon n'a que 19 ans, tu aurais dû marcher accompagné d'un homme. Que fais-tu seule dans la rue ? Déterminée, Dena, escortée par 3 témoins, se rend au commissariat pour déposer plainte. Je ne suis pas sûre que j'aurais agi comme ça avant la révolution, car la police aurait tout simplement ignoré ma déposition. Quand on m'embêtait, je baissais les yeux. Le motocycliste risque 6 mois à 2 ans de prison. C'est quand même une avancée, hein ?
Oui, oui.
Bon, petit à petit. Enfin, tout ça, on en parle dans les médias. Elle délivre le même message aux femmes en leur disant de ne pas céder vos droits. Le temps du silence est fini. C'est la 2e fois en Égypte que les poursuites judiciaires sont engagées pour ce type de harcèlement. En 2008, le premier procès a d'ailleurs inspiré le film « Les femmes » du bus 678, que je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Très très beau film réalisé par Mohamed Diab. Verbal, gestuel ou physique, le harcèlement sexuel est quotidien au Caire. Selon une étude conduite il y a 4 ans par le Centre égyptien pour le droit des femmes, 83% des femmes interrogées déclaraient avoir été harcelées sexuellement. 83% des femmes. C'est quand même énorme. Le chiffre atteignait 98% pour les étrangères. Et 62% des hommes reconnaissaient avoir déjà harcelé sexuellement une femme. Il faut toujours être en alerte, changer de trajectoire, se déplacer à plusieurs, prendre le wagon pour des femmes dans le métro, raconte une étudiante. Et le fait d'être vêtue d'une abaya, grand vêtement qu'ils mettent par-dessus leurs affaires, ne change rien. Même ma mère refuse de m'écouter quand je me plains de ça. longtemps tabou, cette question est désormais discutée sur Internet, à la télé, dans la presse. La révolution est passée par là. En libérant la parole, nous ouvrons nos égouts, ironise une jeune activiste. Paradoxalement, ce fléau semble s'être intensifié. La police judiciaire omniprésente sous le régime de Moubarak s'est en effet volatilisée après la révolution, soit par peur des représailles des révolutionnaires, soit par obéissance aux ordres de ses supérieurs. Plusieurs causes sont avancées pour exprimer ce phénomène social, pour l'expliquer. Le caractère profondément patriarcal de la société égyptienne, le consumérisme qui encouragerait à considérer la femme comme un objet, la frustration sexuelle liée au recul de l'âge du mariage, devenu très coûteux dans un contexte économique tendu, conjugué aux normes sociales qui prohibent les relations sexuelles avant la noce. Avant la révolution, il y avait une forte oppression psychique et émotionnelle, précise Eba Habib, psychiatre spécialiste des violences faites aux femmes. Le harcèlement est aussi une manière pour les hommes de redistribuer la violence dont ils sont eux-mêmes victimes. L'association Arras MAP dénonce avant tout l'acceptation sociale du harcèlement sexuel. Pour aider les femmes à se protéger, elle a mis un dispositif gratuit à leur service. Dès qu'elle est soumise à une insulte salace ou à des attouchements, une femme peut envoyer un SMS, un tweet ou téléphoner au 6069 pour les signaler. Progressivement, une carte des lieux chauds se dessine sur le site arrasmap.org. À côté de cette action virtuelle, 500 volontaires, dont beaucoup de jeunes gens, sensibilisent les passants et les commerçants dans la rue en espérant créer une zone exempte de harcèlement. D'autres militants, sur le modèle du théâtre de rue, provoquent la discussion autour de ce sujet dans le métro. C'est aussi une arme de dissuasion. À côté de ce harcèlement ordinaire, un phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans les mouvements de foule, en particulier Place Tahrir. Des groupes d'hommes se livrent à des attouchements, voire à des viols collectifs sur les manifestants. Les cas de plusieurs victimes d'origine étrangère ont été médiatisés. Il y a une journaliste dernièrement aussi. L'agression s'accompagne de rumeurs selon lesquelles ces femmes seraient des espionnes. Et la rumeur fonctionne, d'autant plus que 30% de la population est analphabète. Mais les associations de défense des droits de l'homme ont aussi collecté des témoignages de manifestantes égyptiennes violées. Selon Amnesty International, l'agression sexuelle est également utilisée par les forces de sécurité ou leurs hommes de main, les Baltagias, pour intimider les manifestantes et les dissuader de participer à la vie publique. Le harcèlement étant comme un moyen de répression était déjà utilisé sous le régime de Moubarak. Rappelle Mohamed Lofti, chercheur sur l'Égypte pour Amnesty International. En 2005, des journalistes qui participaient à une manifestation contre des réformes constitutionnelles dérisoires se sont retrouvés dévêtus et violentés par des hommes en civil alors que les services de sécurité complices les encerclaient sans intervenir. Cette scène évoque celle de décembre 2011 quand des soldats se sont déchaînés sur le corps d'une manifestante dont ils ont arraché la baïa. Voilà. Donc ça avance, maintenant c'est considéré, on peut aller maintenant porter plainte en Égypte et il faut que les femmes osent le faire. En plus, il y a des tests de virginité qui ont été, au lendemain d'une grande marche en faveur du droit des femmes, 17 manifestantes ont été incarcérées en mars 2011 par des forces armées du Caire. Au cours de leur détention, les soldats leur ont infligé des coups, des décharges électriques et 7 d'entre elles au moins ont subi des tests de virginité. Une jeune militante de 25 ans, Samira Ibrahim, a déposé une plainte contre l'armée avec l'aide de plusieurs avocats spécialistes des droits de l'homme. La plaignante a obtenu 2 décisions contradictoires. En décembre 2011, une haute cour administrative condamne la conduite de ces tests et les interdit pour l'avenir. Elle fonde sa décision sur un communiqué de presse d'Amnesty International publié à la suite d'une rencontre entre Abdel Fattah al-Sissi, membre du Conseil suprême des forces armées, et Safil Chefi, secrétaire général d'Amnesty International. Lors de cette entrevue, le militaire avait prétendu que ces tests avaient été pratiqués dans le but de protéger la réputation de l'armée et démontrer que les manifestantes n'avaient pas suivi de viol pendant leur détention. En revanche, devant un tribunal militaire, le médecin de l'armée égyptienne accusé d'avoir procédé à ces tests est relaxé le 11 mars 2012. Ce verdict démontre que l'armée bénéficie encore de l'impunité. Voilà. Il y a encore du boulot quand même.
Il y a encore du boulot, mais
ça avance.
Oui. Est-ce que tu disais une petite remarque par rapport à ce que tu disais cette information, que la possibilité pour les femmes malgré tout en Égypte maintenant de commencer à porter plainte pour ce genre d'agression devient possible. Ça devient possible aussi à condition que des organismes comme Amnesty International, par exemple, les soutiennent.
Complètement.
Et parce qu'il y a de toute façon, bien évidemment, un rapport de force qui va chercher à étouffer toutes les plaintes qui sont posées par rapport à ça. Et c'est seulement la pression l'importance de la pression aussi bien nationale qu'internationale qui peut faire aussi bouger les choses et qui peut réconforter les femmes dans leur éminemment juste combat contre ce genre de pratiques absolument insupportables.
Et que les autorités locales jouent le jeu parce que sur 83% des femmes agressées, si tout le monde se met à porter plainte, ils vont avoir du travail quand même.
Et on ne fera pas de commentaires sur
les tests de virginité.
Les tests de virginité, qu'on m'explique un jour comment on peut faire un test de virginité pour un homme. Et bon, donc le problème est clos à partir de là.
Bon, revenons à l'Égypte.
Voilà, voilà.
Bah moi, parmi mes bonnes nouvelles, justement, j'ai 2-3 bonnes nouvelles au niveau de l'Égypte.
Eh bien, voilà.
Voilà. Mais ce n'est pas concernant des femmes, c'est des hommes. Et bon, c'est prouve qu'en Égypte, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles.
Bien n'importe sûr. Quoi, la transition.
Non, c'était bien la transition.
On prend toujours les bonnes nouvelles.
Pour l'instant, je n'ai pas encore fait la transition.
Même s'il s'agit d'hommes.
Mais oui, mais excuse-moi, j'ai cherché des codes femmes, j'en avais. Donc, en Égypte, Mahmoud Mohamed Amin a été arrêté parce qu'il avait participé à une manifestation au Caire le 4 mai 2012. Blessé durant son arrestation, il a été détenu plus d'un mois et a finalement été libéré le 19 juin 2012. Durant sa détention, plusieurs journalistes en Égypte ont écrit des articles sur lui en se référant aux documents d'Amnesty International. Mahmoud a tenu à remercier l'organisation pour avoir fait campagne en sa faveur. 5 ouvriers égyptiens arrêtés après avoir participé à une grève dans le port de Suez le 7 mars 2012 ont été libérés le 23 avril 2012. Ils s'étaient mis en grève pour protester contre leurs conditions de travail. Ils n'ont fait l'objet d'aucune inculpation. Georges Ramzi Navkop, membre du mouvement des jeunes du 6 avril, a été arrêté le 6 février, arrestation durant laquelle il a été maltraité par les forces de sécurité. Durant sa détention, il n'aurait pas reçu les soins nécessaires à son état de santé. À la suite de l'action urgente lancée en sa faveur, dont Georges a eu connaissance en lisant le journal en prison, celui-ci a déclaré que son traitement en détention s'était amélioré. Le 25 mars, il a été libéré. Bon, je pense qu'on peut peut-être passer une petite pause, non ?
Oui, on va rester sur cette note positive et un peu de musique.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Sí.
On vient d'écouter Manu Chao. Donc, bien sûr, Manu Chao, bah, ceux qui étaient au Festival Rock, parmi ceux qui nous écoutent, ils savent pourquoi. Hein. Manu nous a très gentiment permis d'intervenir sur le traité sur les armes. Bah, Manu, oui, parce que
Manu.
On s'est vu qu'une fois, on a discuté ensemble, mais c'est vrai que ça a été très cordial et très, très, très facile avec lui immédiatement. Voilà. Donc, il nous a permis d'intervenir avec Sabine à côté.
Et on l'embrasse très fort.
Et moi, je ne l'embrasse pas, mais Sabine, oui. Sabine l'embrasse. Moi, je me suis contenté de lui serrer la main.
Mais ce soir, de vos musiques, c'est une spéciale Festival Rock.
Ouais, c'est une spéciale Festival Rock, c'est ça. C'est ce que j'avais pensé. Ouais. Donc, il nous a permis de parler du traité sur les armes devant les 13 000 festivaliers présents devant la scène. Et un petit mot sur ce traité sur les armes, parce qu'il n'est pas du tout évident que vous ayez eu des informations vous-même en tant qu'auditeur sur où ça en était. Et parce que les médias n'ont pas du tout fait leur une cet été. Bon, on est passé très très près de la signature. Ça a failli se faire sur les termes que nous, qu'Amnesty demandait, c'est-à-dire le fait que les ventes d'armes soient interdites au niveau de l'ONU, soient interdites pour des États qui violeraient les droits fondamentaux de leur population. Donc ce serait déjà le cas pour la Syrie si c'était appliqué. Et d'autre part, que le suivi de ces interdictions et le commerce des armes fassent l'objet de contrôles et que ces décisions ne soient pas évidemment lettre morte. Ces deux points principaux ont failli être acceptés au mois de juillet en séance plénière à l'ONU à New York. Malheureusement, le dernier jour, l'administration américaine a réclamé plus de temps pour étudier différents points du traité et donc tout a capoté le dernier jour. Amnesty International et particulièrement la branche américaine qui était bien sûr aux États-Unis, qui était très présente, a été extrêmement en colère sur l'attitude de l'administration d'Obama, qui a fait capoter le projet. Pour autant, ce n'est pas entièrement une défaite parce qu'il reste 80 pays qui ont relancé à l'issue de cet échec, qui ont relancé le processus. Et donc ce traité sera remis en discussion peut-être à la fin de l'année aux Nations Unies. On n'y croit pas vraiment que ce soit à la fin de l'année. On est plus réaliste et on pense que le traité sera rediscuté en 2013. Ce qu'il faut savoir quand même de positif, c'est que malgré l'opposition de nombreux pays, alors il y avait qui étaient opposés au traité, l'Égypte, l'Algérie, le Venezuela, Cuba, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Zimbabwe, l'Inde et les États-Unis, la Russie et la Chine, comme quoi les États-Unis et la Corée du Nord, qui sont soi-disant ennemis, peuvent se retrouver quand ça les arrange. Donc tous ces pays-là, effectivement, étaient extrêmement opposés au traité d'entrée et que ça a failli se faire quand même. Donc, on est quand même assez content, malgré le fait que ça ait capoté in extremis. Et encore une fois, merci Manu de nous avoir permis d'en parler au Festival Rock. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'on parlait de quoi c'était à Françoise.
Eh bien oui, moi, je vais vous parler de quelques témoignages concernant le sort des enfants dans le monde. Je vous parle de Muna Mourabasi, l'homme qui allait rechercher les enfants. C'est un militant des droits de l'enfant depuis 1989. C'est un homme de première ligne, au sud Kivu. À chaque fois qu'un groupe armé décide de rentrer dans le rang, de rejoindre les forces gouvernementales ou la vie civile, appel est fait à lui pour qu'il vienne récupérer les mineurs incorporés dans la troupe. Chaque enfant qui nous arrive, c'est une arme de moins, c'est une portion de paix en plus. Concernant maintenant ce qui s'est passé aussi de très important en Amérique, aux États-Unis, vers la fin de la peine de prison à vie pour les mineurs. Une décision historique. La Cour suprême des États-Unis a jugé lundi 25 juin que l'emprisonnement à vie de jeunes mineurs reconnus coupables de meurtre était anticonstitutionnel, signant une décision qualifiée d'historique pour la justice des enfants. En France, la nouvelle garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, a annoncé la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs et celle des peines planchers, conformément aux engagements de François Hollande pendant la campagne présidentielle. En effet, la justice des mineurs en France avait été broyée. Je vous dirai un mot aussi concernant peut-être... en France... Sans papier, favoriser l'assignation à résidence, la rétention devient l'exception. Ça, c'est ce que l'on souhaite arriver au mieux. Cependant, des mineurs continuent d'être envoyés en centre de rétention. Et ça, nous nous y opposons assez fortement.
Complètement, même d'ailleurs.
Et même complètement, oui, tu l'as dit. Oui. 15 associations et syndicats ont décidé de saisir le défenseur des droits de la situation dramatique des mineurs étrangers en danger en région parisienne. Voilà, un rapide mot concernant le système scolaire. Bon, 150 000 jeunes en France, soit 10% des jeunes, sortent chaque année du système scolaire sans qualification et ne sont plus scolarisés. Moins 13,1% des jeunes de 15-24 ans sont sans emploi ni formation. Bon, et voilà ce qui nous fait penser que France, ton école, fout le camp. Je passe la parole à Didier.
Je ne sais pas à qui c'était de parler, au fait.
Non. Eh ben, je crois que c'est à Didier.
Il n'y a pas que l'école.
Ah, moi, je sais que j'ai une petite action, une action de oui.
Ah, moi, que ce soit Ronan, peut-être.
On va pas se battre.
On plaisante, oui. On plaisante entre nous, mais là, je regardais Françoise, effectivement, qui a dû faire un contre-cœur, un résumé très, très bref de la
oui,
commission
bah
enfant.
Oui.
C'est un document, effectivement, d'Amnesty qui est très copieux, comme à chaque fois, et qu'on vous encourage à prendre connaissance si ça vous intéresse. Qui fait l'inventaire, effectivement, de ce que la commission enfant, parce que les droits des enfants sont bien sûr parmi les droits fondamentaux, hein, bien évidemment. Et c'est un document important et qui recèle énormément d'informations. Et je voyais Françoise qui, contre cœur, était obligée de passer beaucoup de pages et de censurer beaucoup de choses qu'elle avait, parce qu'on va manquer de temps, qu'elle avait prévu de nous dire. Donc, Ronan, une bonne nouvelle. Non, pas une bonne nouvelle, on va changer. C'est
non,
un
non,
appel
je,
à l'action.
Je vais faire l'action du mois.
Voilà.
Donc, notre action urgente du mois. Donc c'est en Arabie Saoudite, des cofondateurs d'une organisation de défense des droits humains jugés. Deux cofondateurs d'une organisation saoudienne de défense des droits humains font l'objet de poursuites pour des charges liées à leur militantisme et leur critique à l'égard des autorités saoudiennes. Si ces deux hommes sont incarcérés, Amnesty International les considérera comme des prisonniers d'opinion. Abdullah, 65 ans, et Mohamed, 46 ans, tous deux cofondateurs de l'association saoudienne des droits civils et politiques, une ONG de défense des droits humains, ont comparu en justice le 1er septembre 2012 et ont répondu concernant les charges qui pèsent sur eux. Les deux hommes ont été déférés devant le tribunal pénal de Riyad, respectivement le 11 et le 18 juin, et inculpés de plusieurs infractions similaires, comprenant le fait d'avoir tenté de troubler la sécurité et l'ordre public, d'avoir porté atteinte à l'unité nationale, d'avoir rompu l'allégeance au souverain et de lui avoir désobéi, et d'avoir remis en cause l'intégrité des représentants des autorités. Selon les actes d'accusation les concernant, les charges retenues contre eux sont dues notamment au fait qu'ils aient rédigé et publié une déclaration appelant des manifestations fondées une organisation non autorisée et accusé le pouvoir judiciaire d'avoir autorisé des actes de torture et accepté des aveux extorqués sous la contrainte. Mohamed Bin Fahd était l'un des défenseurs des droits humains présents en tant qu'observateur pendant l'audience du 11 juin. Il a alors appris qu'il comparaîtrait une semaine plus tard. Donc, nous demandons donc dans l'action urgente du mois d'écrire donc aux autorités pour demander d'abandonner les poursuites engagées contre Abdullah et Ali Al-Hamid.
Donc, on vous rappelle que pour le faire, bah, c'est pas compliqué pour tous ceux qui nous écoutent.
C'est
pas compliqué. Vous nous envoyez vos coordonnées par mail à l'adresse suivante. Prenez un papier et un crayon. Amnesty, A-M-N-E-S-T-Y, @gmail.com. Vous nous envoyez vos coordonnées à cette adresse-là. On vous enverra.
J'ai préparé la lettre.
L'action, voilà. L'action à faire et la lettre est pour ceux qui n'ont pas envie de passer beaucoup de temps ou qui n'ont pas le temps de faire beaucoup de prose. La lettre est pré-mâchée par Ronan. On vous la renvoie et chargez-vous après de la faire suivre. Et c'est extrêmement important. Ça paraît très simple à faire et c'est très simple à faire. Mais ces lettres qu'on fait effectivement à Amnesty à longueur d'année sont fondamentalement importantes aussi bien pour servir de pression par rapport aux autorités qui oppriment que pour servir de soutien moral, et ça c'est fondamental aussi, pour les gens qui sont opprimés et qui sont derrière les barreaux ou dans des conditions très difficiles. Les deux sont importants.
Bah, toutes les bonnes nouvelles que j'ai lues tout à l'heure, justement, c'était par rapport à ces actions urgentes.
Voilà.
Les gens ont été libérés suite souvent...
Bien sûr.
Voilà. Alors il y a ces lettres. Il n'y a pas que ces lettres maintenant, puisque bien sûr, avec l'évolution technique, maintenant il y a beaucoup de pétitions à signer sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Il y a beaucoup de pétitions à signer, il y a des appels, etc., etc. Mais on rappelle que ces lettres individuelles signées par des membres ou des sympathisants d'Amnesty sont fondamentalement importantes et qu'elles resteront toujours fondamentalement importantes. Donc, amnesty.evreux@gmail.com, vous nous envoyez vos coordonnées, on vous renvoie le texte et vous n'avez plus qu'à le poster.
L'action urgente et le texte, après c'est vous qui choisissez.
Voilà. Un petit point d'information pour terminer cette émission, parce qu'on touche déjà à la fin de l'heure qui nous est impartie, comme on dit. Le 17 octobre, une information générale, enfin, Amnesty en fait partie, du collectif La Journée mondiale du refus de la misère. C'est une initiative qui n'est pas purement amnistienne, mais qui est due à TD Quart Monde. Et Amnesty, avec le Secours catholique, qui sont les trois principales organisations qui relaient cette initiative-là. Bon, on vous en parle un peu de façon générale. Ça existe depuis 25 ans, cette journée, dont le but est de montrer que les atteintes, enfin, les gens en situation de grande misère, on peut résumer comme ça, les gens en situation de grande misère voient leurs droits fondamentaux bafoués. C'est quelque chose qui parle beaucoup aux militants d'Amnesty, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, les droits économiques et sociaux doivent être respectés, que la misère est incompatible avec le respect de ces droits. C'est une journée nationale et internationale. Bon, localement, sur Évreux, il n'y aura pas cette année d'initiative. On avait participé il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, à une journée qui était lancée par l'Association des jeunes de la Madeleine. Donc, on avait tenu un stand d'information. Mais cette année, bon, il n'y a pas d'initiative locale. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Par contre, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a un site dédié par ATD Quart Monde qui s'appelle Refuser la misère, tout attaché, refuser la misère à l'indicatif .org. Donc, vous avez tout le bilan de l'action en cours. Et la journée dédiée à cette journée nationale du refus de la misère, c'est le 17 octobre. Donc, ça, c'est important. Une autre information aussi qu'on vous donne, c'est on vous en a jamais parlé, mais Amnesty fait partie d'une initiative qui s'appelle le concours des plaidoyers des lycéens pour les droits de l'homme. Alors c'est quoi ? C'est organisé par le mémorial de Caen, c'est pas très loin d'Évreux, le mémorial de Caen, donc à l'initiative de plusieurs, dont Amnesty, et c'est un appel pour des jeunes à créer des plaidoyers, écrire des plaidoyers pour la défense des droits humains. Je vous lis simplement la présentation générale. Le mémorial de Caen propose aux lycéens de la France métropolitaine, des DOM et des lycées français à l'étranger, d'exprimer leur indignation face à des atteintes fondamentales aux droits de l'homme. Depuis 15 années, des milliers de jeunes ont participé au concours de plaidoirie des lycéens. Ils sont ainsi devenus des défenseurs d'une cause qui leur tient à cœur. S'inscrivant pleinement dans le programme de l'éducation civique, juridique et sociale, ce concours participe à l'apprentissage des valeurs de ses futurs citoyens, fondée sur la tolérance, le respect de l'autre et l'ouverture au monde, autant de thèmes qu'Amnesty, on connaît bien. Bon, je ne vous en dirai pas plus, je vous indique juste le site sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations. Également, écouter des plaidoiries des années précédentes. Il s'appelle mémorial-plaidoirie, mémorial au singulier, plaidoirie au pluriel, .fr, mémorial-plaidoirie.fr. Voilà, tous ceux que ça intéresse, il est encore temps. La clôture des inscriptions, il y a plusieurs étapes de sélection après, mais la clôture des inscriptions est le 11 novembre 2012.
Parlez-en à vos profs,
tout à fait, n'hésitez pas. Et la journée définitive des plaidoiries en bout de chaîne, si on peut dire, aura lieu au mémorial de Caen le vendredi 1er février 2013. Amnesty y participe avec Reporters sans frontières et avec d'autres, et la région Basse-Normandie, etc., etc. Très intéressant comme initiative. Autre chose, va sortir un film, on espère qu'on pourra faire une soirée, on n'a pas encore discuté avec le cinéma, c'est une avant-première un peu prématurée qu'on vous donne, mais bon, va sortir un film au mois d'octobre qui s'appelle La Pirogue, qui est soutenu par Amnesty International et qui parle des gens qui fuient l'Afrique pour venir, c'est un film de cinéma, de fiction, mais qui parle de gens qui fuient l'Afrique par bateau pour venir chercher l'asile dans les pays d'Europe. Voilà, donc on espère pouvoir faire une soirée spéciale, on vous en reparlera bien sûr. Voilà pour les actualités locales. Si j'en oublie, n'hésitez pas, les copains et les copines, à venir compléter. Donc,
non, mais je pense que déjà, on peut dire que notre prochaine émission, on peut peut-être donner la date.
Ah, la date, Ronan, j'espère que tu l'as préparée, parce que chaque fois, on oublie de la préparer à l'avance. Ronan y a pensé, bravo Ronan.
Le 30 octobre.
Le 30 octobre, prochaine émission.
Mardi 30 octobre.
Voilà, donc on vous rappelle notre rendez-vous mensuel, chaque dernier mardi du mois, 19h-20h en direct. L'émission est mise en ligne après, au plus tard le lendemain sur le site de Principe Actif et vous pouvez les réécouter et les télécharger autant de fois que vous voulez.
Et nous allons aussi la presse à l'émission Le Laboratoire.
Voilà, d'ailleurs, l'animateur est arrivé.
Allez, bonne soirée à tous. Voilà.
Signez, parce que nos signatures ont du pouvoir. Et bonne soirée à tous.
Merci Sabine de le rappeler et puis bonne émission à la suite.